Bienvenue à tous pour ce nouveau podcast Spot Queer. Je suis Jérôme qui chronique habituellement pour la rubrique Culture Queer et nous sommes aujourd'hui au Merci Marcha. Un lieu où je me sens bien. Denis nous reçoit aujourd'hui pour nous faire découvrir ce lieu nécessaire sur Paris. Bonjour Denis.
Bonjour à tous.
Alors, écoute, j'aimerais que tu nous présentes ce lieu qui m'est cher. Je l'ai découvert il y a environ 2 ans. Je crois que tu m'as dit qu'il avait ouvert en novembre 2023. Peux-tu nous parler de cette énergie qui a fait que vous avez ouvert le Merci Marcha?
Alors à l'origine, Merci Marcha est venu de notre expérience avec Laurent, mon associé. On voulait créer un lieu où tout le monde pouvait se rendre sans avoir besoin de choisir. Nous, quand on sortait avec nos amis, lorsqu'on était avec des amis lesbiennes, il fallait qu'on choisisse des bars qui puissent les accepter. Et nous, des fois, c'était compliqué aussi de pouvoir rentrer dans certains bars réservés aux personnes lesbiennes. Et pour nous, l'important, c'est de se dire, ok, l'entre-soi est important, parce qu'on a besoin d'entre-soi pour se trouver une place, pour se construire une place aussi. Mais on avait aussi ce désir de créer un lieu où, finalement, n'importe qui, bienveillant pour notre communauté LGBTQ, puisse se rendre sans avoir à se poser de questions sur l'accueil qui va lui être réservé et l'expérience qu'il va pouvoir y vivre.
Donc, ça, c'est, le moteur. Mais d'aller jusqu'à la concrétisation, d'aller jusqu'à... Parce que je crois que vous n'étiez pas forcément dans ce domaine du... Enfin, je ne sais pas si toi, tu avais déjà travaillé dans un bar avant ou si ton associé, pareil. Comment ça s'est fait, finalement, concrètement?
Alors, en réalité, nous, ça fait 10 ans qu'on est drag queen. On a développé notre première activité en tant que maîtresse de soirée, de cérémonie, dans des lieux qui nous étaient chers. Et finalement, on s'est demandé où est-ce qu'on pourrait se produire encore de nouveaux lieux, de nouveaux espaces. Et un jour, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas notre lieu, finalement, notre scène? Et c'est un petit peu comme ça qu'on a construit et élaboré notre projet. Et c'est un projet qui, en réalité, a mis 3 ans à voir le jour. Puisque trouver un lieu, c'était complexe. On a vécu beaucoup d'homophobie et de LGBT-phobie pendant cette recherche de lieu, que ce soit à travers des agents immobiliers, des propriétaires de lieux, les banques aussi, puisque nous avons été traités de travelots par un banquier lorsqu'on a voulu parler de notre projet. Et finalement, rien que la construction du projet était déjà une première épreuve. Et au bout de 3 ans de recherche, on a réussi à enfin ouvrir le bar. Donc, même si on est ouvert que depuis 2 ans et demi, ça fait déjà 5 ou 6 ans qu'on est dessus. Ouais.
Alors, moi, je vous ai connu en fait par le biais de soirées, parce que c'est ça que j'aime beaucoup ici, c'est que ça fourmille d'idées. Vous êtes hyper créatif, que ce soit dans vos cocktails. D'ailleurs, je suis amené à parler des cocktails parce que il y en a quelques-uns que j'apprécie particulièrement. Que ce soit le nom que vous leur donnez et les compos, je trouve ça absolument génial. Peux-tu nous parler juste déjà un petit peu de ta carte?
Alors, c'est un super point parce qu'en réalité, la carte, on ne le voit pas au premier abord, mais pour nous, la carte a été aussi un vecteur d'inclusivité. On a un tiers de notre carte qui est sans alcool parce qu'on voulait justement libérer nos clients des fois de cette pression, de cet inconfort, voire même de cette discrimination par rapport à certaines propositions. On met un point d'honneur à avoir aussi des propositions sans alcool, mais tout aussi travaillées, tout aussi élaborées que les cocktails habituels. Et on a aussi la majorité de notre carte à manger qui est vegan. Là aussi, pour ne pas créer de discrimination, comme ça tout le monde peut choisir sans avoir besoin de se justifier ou alors lorsqu'il faut partager, à devoir faire des concessions. Pour nous, la carte est effectivement un vecteur d'accueil aussi à ce niveau-là pour que chaque personne qui commande se sente à l'aise et puisse profiter d'une expérience. Et nos cocktails, bon, c'est ça pour le coup, c'est le fruit de pas mal de recherches, de tests, pas toujours réussis. Faut savoir qu'on change la carte toutes les saisons. Et dès le lancement d'une carte là de printemps, par exemple, on est déjà en train de travailler la carte d'été pour aller chercher des saveurs un peu inédites. Sachant qu'on porte aussi un grand intérêt au rapport qualité-prix, parce qu'on sait très bien que la communauté LGBTQ n'est pas forcément la communauté qui a le plus de pouvoir d'achat. Et c'est important aussi de garder des tarifs accessibles pour, encore une fois, diminuer les discriminations ou les difficultés d'inclusion.
Alors là, tu me parles de tarifs accessibles et moi, j'ajouterais quelque chose. Je trouve que vous travaillez avec des alcools, quand ce sont des alcools, mais quand ce sont des softs aussi, avec de la qualité. J'ai trouvé que vous aviez un sourçage très intelligemment fait, que ce soit la bière, que ce soit certains alcools qui ne sont pas évidents à trouver généralement. Je trouve que vous faites un vrai effort. C'est une volonté de base, ça, que vous aviez ?
Alors, la première volonté qu'on a mise en place, c'était le côté éco-responsable. D'où le choix des bières faites à Paris, bio. Pareil pour les vins, on a des vins 100% bio. Et c'était aussi l'idée de trouver un bon entre-deux, entre quelque chose d'abordable, mais des produits sympas. Parce que plus les produits sont de qualité, ben plus on peut consommer sans avoir mal à la tête le lendemain, par exemple. Plus on va prendre du plaisir et découvrir des choses. Et après, c'est aussi beaucoup d'imaginaire. C'est-à-dire qu'on a des alcools de base, la Suze par exemple. On n'a rien inventé par là, mais la Suze, si on la travaille bien avec quelque chose un peu de plus exotique, ça peut être hyper intéressant. Donc, on n'est pas là pour faire du matu vu, on est là pour aussi s'amuser avec des saveurs qu'on connaît, remettre au goût du jour. Et malgré tout, toujours aller chercher des expériences intéressantes et un peu novatrices. L'été, on a des cocktails glacés. L'hiver, on a des cocktails chauds. Voilà, on veille aux allergènes. Par exemple, les cocktails chauds, ils sont faits à base de lait d'amande pour que les gens qui sont intolérants au lactose puissent aussi en profiter. Enfin, c'est nous, travailler la carte, c'est vraiment le travail dans un souci d'accueil aussi et de diversité, hein, tout comme on fait avec notre public. Mais c'est un jeu avant tout, parce que là on parle de goût, on parle de saveur, voilà.
Bah, si je comprends bien, si parmi nos auditeurs il y a des fans de mixologie, c'est une adresse incontournable, puisque vous viendrez tout simplement déguster une boisson qui non seulement a été préparée avec amour, avec humour, et pour vous emmener faire un petit voyage sympa. Le bar en lui-même, moi je l'aime beaucoup parce que on se sent bien, tout simplement, ne serait-ce que la déco. Moi j'aime bien votre déco qui peut rappeler un petit fond scandinave, mais sur lequel on a mis pas mal de couleurs. Et le lieu est bien fait parce que en fait, il est à la fois cosy. Il y a cette espèce d'alliage de matériaux précieux comme la pierre. Il y a un bar au fond, mais qui est assez sympa, où on se retrouve pour commander, bien sûr. Mais ce que j'aime, c'est qu'ici, il y a une sorte de communication entre les tables. C'est-à-dire qu'il y a peu de lieux où j'ai senti ce côté sympa de sentir qu'on ne dérange personne. Est-ce que ça, tu l'as remarqué ? En tout cas, moi, c'est un constat que je fais.
Alors là, c'était un choix dès le départ aussi. Le bar est entièrement modulable. C'est-à-dire qu'il y a des soirs où on a du mobilier, il y a des soirs où il n'y a pas de mobilier, il y a une scène, la scène va se transformer en armoire pour ranger les manteaux. Enfin, on est sur l'optimisation des petits espaces parisiens où, clairement, tout mobilier peut servir à plusieurs fonctions. Et l'avantage, c'est que justement, lorsque l'espace est occupé, bien finalement, les gens naturellement vont bouger les tabourets, bouger les tables, et reconfigurer l'espace aussi avec leurs besoins. Donc on est un peu sur le format d'une agora, hein, finalement, où chacun prend une place et puis s'insère dans le groupe. Et ça passe aussi par nous au bar. C'est-à-dire que là aussi, hein, quand on avait, je m'en rappellerai très bien, quand on a fait nos premiers recrutements dans les équipes, on a toujours dit qu'un client qui vient seul au bar ne doit pas rester seul. Donc on l'accueille. Quand une personne est seule, parce que des fois, ça peut être intimidant de venir dans un bar LGBTQ, surtout des fois quand ce sont les premières fois, accueil, on fait connaissance, et l'avantage, c'est que nos clients sont quand même, clients-clientes, hein, sont des choubidous, donc très vite, on les amène à faire connaissance les uns avec les autres, on se présente, on se tutoie forcément, on connaît les prénoms de quasiment tous nos clients très réguliers qui viennent et tout, donc on est plus dans une dynamique de créer un lieu, de créer... une soirée un peu comme à la maison, hein, finalement. Et donc, l'espace s'y prête. On joue aussi beaucoup avec les lumières, puisque les lumières vont s'adapter d'une soirée à l'autre. On s'est toujours dit que quand on a ouvert le bar, on n'avait pas d'arc-en-ciel dehors. Bon, maintenant, on a mis des drapeaux. Mais au départ, on n'avait pas d'arc-en-ciel, on n'avait pas de drapeau LGBTQ. On s'est toujours dit que l'arc-en-ciel était à l'intérieur. Et à travers, effectivement, le public et les clients, clientes, mais aussi à travers les lumières. Donc finalement, toutes nos lumières jouent autour des lumières des différents drapeaux. Et ce qui nous permet aussi de nous adapter au thème et aux soirées lorsqu'on a une privatisation. Voilà, on peut vraiment tout moduler à 100% par rapport au public.
Alors oui, effectivement, moi ce que je vais confirmer et peut-être amener aussi, c'est que bah, ce lieu, c'est une performance en lui-même. Déjà, vous arrivez, il faut savoir que de l'extérieur, vous allez reconnaître un graphe de Caching. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Caching, mais je vous invite tout simplement à venir voir ce qu'elle fait, ne serait-ce que avec la vitrine du Merci Marchat. Et puis, c'est un lieu qui accueille beaucoup de performances. Moi, il fut un temps où j'ai même fait ici du stand-up avec le Yas Queen Comedy. Et il y a plein de soirées et je vais te demander un petit peu de nous parler justement de cette énergie à la fois artistique qui génère beaucoup de rassemblements, parce que moi je trouve que c'est un lieu qui rassemble. Est-ce que tu peux nous parler de la programmation, s'il te plaît?
Alors là, c'est un point clé hein, qui est géré par Laurent et qui prend un temps incroyable pour aller chercher des invités, des artistes, des performeuses qui vont fédérer. On a des soirées autour des drag queens, on a des soirées drag king, on a plein d'associations qui viennent aussi, pour que ce soit pour faire des verres entre eux ou même pour se présenter. On a des artistes de tous niveaux, on a une scène ouverte par exemple, sur laquelle les artistes qui débutent peuvent venir se produire librement. Et toujours pareil, dans un climat finalement hyper bienveillant. On va avoir les tirages de cartes, de l'humour, des scènes. Et c'est intéressant parce que sur nos artistes, évidemment, la priorité est faite aux artistes LGBTQ. Les humoristes ont toujours remonté que c'était hyper important pour eux parce que entre faire une scène d'humour face à un public LGBTQ quand on l'est et face à un public qui ne l'est pas, c'était quand même beaucoup plus riche parce que quand on est dans la communauté, bah, effectivement, les blagues passent mieux, il y a moins de discrimination et très souvent, les artistes, notamment genrés féminins, féminines, des fois sont là pour des histoires de quotas, sont là pour des histoires de représentation de différentes diversités, alors qu'ici, c'est presque l'inverse. Lorsqu'on a des artistes hétéro-blancs, eh bien, c'est eux le côté un peu exotique et leur retour d'expérience est toujours très intéressant aussi. Donc l'idée c'est de réussir à créer un ensemble d'événements à la fois différents mais aussi très fédérateurs, tout en laissant aussi des soirées libres, parce que c'est important de pouvoir créer un lieu où on peut venir même si on n'est pas intéressé par un événement ou si on a juste envie de boire un verre ou de discuter avec des amis. Donc c'est un équilibre assez précieux et ça, pour ça du coup, c'est effectivement Laurent qui fait ce travail d'équilibriste pour réussir à créer des sous-communautés, parce que finalement il y a des gens qu'on va voir que pour l'open mic une fois par mois, il y a des gens qu'on va voir que pour le comedy club et c'est intéressant des fois de voir ces gens qui se mélangent ponctuellement en plus lors des bingos par exemple qui là sont d'énormes soirées où finalement tous les publics qu'on rencontre au fil de la semaine se retrouvent généralement.
Bah moi, ça m'a donné l'occasion de rencontrer une artiste hors pair. Hein. Je fais un petit clin d'œil à un de mes précédents podcasts. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer Diefa ici. Et ensuite, j'ai suivi son travail parce que j'adore. Donc voilà, c'est un lieu où vous pouvez voir des vrais artistes qui proposent de l'art qui peut être engagé, qui peut vous faire tout simplement rire. Enfin bon, bref, ici, on passe de bons moments. Et c'est, je pense, ce que vous avez voulu faire. Mais il y a aussi une autre dimension, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de mémoire ici, parce que le Merci Marchat ne s'appelle pas Merci Marchat pour rien. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu qui était Marchat?
Alors, Marsha P. Johnson, hein, qui est une figure très importante de notre communauté. Alors, ce qui est important dans notre bar, c'est qu'on n'a pas voulu forcément prendre ou utiliser l'image de Marchat, parce que c'est une personne trans afro-américaine. Mais par contre, c'était de célébrer l'héritage de toutes les luttes qui ont été menées. Je pense qu'on doit énormément à nos générations précédentes qui ont vécu des combats assez intenses, Marchand en plus ayant été assassiné sans qu'on résolve son meurtre, et restait quand même une figure très prégnante. Et finalement, à travers ce nom de Merci Marsha, pour nous, c'était rendre hommage et remercier toutes les générations qui se sont battues auparavant pour qu'on puisse espérer avoir des conditions de vie safe, même si des fois la politique nous fait un petit peu peur sur les temps à venir, je dirais. Mais en tout cas, c'était un hommage effectivement de mémoire à toutes les personnes qui ont lutté avant nous.
Ouais, ça je l'ai bien senti en tout cas, et puis tu nous l'avais expliqué, enfin toi et Laurent me l'aviez expliqué d'ailleurs. D'ailleurs, est-ce que par rapport au fait que tu fasses un clin d'œil à tout ce passé, est-ce que au Merci Marsha, vous avez pu être témoin malheureusement de choses un peu négatives, de propos qu'on vous aurait sortis, ou enfin voilà, c'est intéressant aussi qu'on sache. Qu'on ait un retour d'expérience, vu que ça fait depuis novembre 2023 que le lieu est ouvert.
Alors, les premières années ont été assez complexes, puisque nous avons été victimes de LGBT-phobie hein, de la part de nos voisins. Il y a eu 5 plaintes de portée, il y a eu des agressions. Alors, on ne pouvait pas les caractériser comme telles pendant le dépôt de plainte, mais lorsqu'un voisin jette des produits ménagers sur les clients, on va quand même pouvoir parler d'agression officiellement. Il y a eu de la dégradation de certaines décorations qu'on avait faites lors des temps de marche des fiertés du mois de juin. Il y a quand même eu aussi une pression assez forte de la part des autorités, puisque lorsque le voisin se plaignait d'un bruit un peu excessif comme ça, nous, les forces de l'ordre arrivaient dans les 5 minutes pour nous contrôler, alors que le jour où on a eu un souci avec du vinaigre dans l'œil d'un de nos clients, nous attendons toujours la police hein, depuis un an et demi lorsqu'on les a appelés par rapport à ça. Donc on a vraiment eu cette différence de traitement qui nous a touchés. Et lorsqu'on a ouvert la parole, lorsqu'on a voulu nous libérer un petit peu de ce qu'on portait depuis plusieurs années, on s'est rendu compte qu'en réalité, les lieux queer en général sont... quasiment tous victimes de ce genre de comportement. On a eu un super accueil pour le coup de la mairie du 11e, relayé par la mairie centrale, qui a pris le temps de nous recevoir, alors non pas comme fauteur de troubles, parce qu'on fait du bruit dans le quartier, mais vraiment comme victime de ce qu'on vivait. Et finalement, on a réussi à avoir leur soutien, à avoir des interlocuteurs privilégiés au niveau des forces de l'ordre pour pouvoir échanger facilement. La suite, en tout cas, de cette coopération a été renforcée grâce aux élections qui, pour le coup, nous ont mis en sécurité avec des personnes qui comprennent les enjeux de notre communauté.
Parce que c'est ça aussi qui est novateur par rapport au Merci Marsha, c'est qu'effectivement, vous n'êtes pas Marais intramuros, je pourrais qualifier ce positionnement géographique comme un positionnement géographique courageux, parce qu'il y a peu de bars qui osent sortir du Marais en étant queer. Et ça, oui, déjà, c'est aussi une démarche en soi. Et puis, ce que je trouve de très novateur, ça ne veut pas dire que j'en viens, moi, à dire que les bars gays n'ont pas évolué, mais effectivement, si vous voulez vous retrouver entre gens différents, avec un éventail très large de personnes qui viennent d'un petit peu partout, c'est ici que ça se passe aussi. Il y a d'autres lieux, bien entendu. Je suis désolé pour les gens en province qui vont se dire « Ah, c'est encore à Paris que ça se passe », mais je suis sûr qu'en province, il y a plein de lieux comme ça aussi. Et puis, d'ailleurs, j'adresse un petit clin d'œil à toutes les personnes qui viennent de temps en temps à Paris. C'est peut-être ici qu'il faut venir faire un tour. Alors, l'adresse, c'est quoi déjà ?
Donc, le bar Merci Marsha, 8 rue Richard Lenoir, donc dans le 11e arrondissement de Paris. On est entre les métros Voltaire et Charonne. Donc voilà, un quartier hyper cool et hyper vivant.
Oui, en plus, il y a plein de commerces autour. Donc, en venant dans ce quartier, c'est bingo, quoi. Il n'y a pas que le Merci Marsha, mais il y a notamment le Merci Marsha. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, moi, pour l'avenir ? Enfin, vous souhaiter ?
Eh bien, beaucoup plus de fun, beaucoup de clients qui viennent nous voir, qu'on papote, qu'on rigole ensemble. Nous, c'est ce qui nous drive hein, tous les jours, c'est de venir bosser, mais en prenant beaucoup plus de plaisir qu'autre chose. Donc voilà, de très belles soirées en perspective.
Comment on peut vous suivre hein ?
Alors, nous avons un Instagram très riche, donc merci.marsha. Vous pouvez nous retrouver. Nous avons aussi une newsletter où on envoie une fois par semaine le programme de tous les événements qu'on propose. Voilà, après, bon, on est un peu sur tous les réseaux, hein, mais le plus actif pour nous, c'est l'Instagram.
Eh bien, écoute, je te remercie, Denis, de nous avoir reçus aujourd'hui. Tu feras un coucou à Laurent de ma part. Bah, vous l'aurez compris, hein, Queer As You vous invite vraiment à venir découvrir ce lieu et nous comptons sur vous. Cette nouvelle rubrique Spot Queer touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas donc à nous faire un petit retour si vous le souhaitez sur le Merci Marcha. Et surtout, revenez vite nous écouter sur la radio Queer As You.